Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'Expérience Inédite, le podcast de OnePoint qui s'intéresse aux territoires sensibles de l'expérience dans nos vies de consommateurs. Depuis des millénaires, les êtres humains ont créé de la valeur en s'échangeant des commodités, des produits, des services. Depuis quelques années, tout s'est accéléré. L'expérience est devenue l'axe majeur de création de valeur. Elle révolutionne nos habitudes, redessine les territoires de la consommation et impacte l'ensemble des secteurs d'activité. Autour de 5 questions, je reçois ici une personnalité forte et inspirante qui nous partage les enjeux et l'impact de l'expérience dans son secteur. Bienvenue dans l'Expérience Inédite, je suis Patrick Walid, partenaire stratégie et innovation chez OnePoint. Pour cette seconde saison, je vous propose de partir à la découverte des nouvelles frontières de l'expérience autour du Web3 et des métavers, pour comprendre le monde qui change en échangeant.
On ne vous a jamais dit « le client est roi ».
S'il y a une chose qui me met hors de moi, ce sont les mauvais vendeurs.
Ce magasin est magique.
Si vous aimez être reçu comme un chien dans un jeu de quilles,
vous êtes dans la boutique idéale pour ça, monsieur Louis.
Ouvrons le magasin.
Raphaël Assouline, bienvenue, merci d'être là. On est réunis aujourd'hui pour l'expérience inédite, donc les événements organisés par OnePoint autour de l'expérience et de la manière dont on vit les expériences aujourd'hui. Et bien sûr avec toi, pour parler des expériences dans les métaverses, on va te laisser te présenter. Je voulais aussi dire bienvenue aux gens qui nous suivent aujourd'hui, alors qui sont peu présents aujourd'hui en reprise de post-Covid, saison qui s'annonce difficile, mais il y a des gens, il y a un petit peu de personnes sur place, il y a surtout des gens qui nous suivent sur le live sur YouTube, qui pourront aussi retrouver le replay de notre podcast sur les différentes plateformes de replay. Et pour les collaborateurs de OnePoint sur notre workplace. Donc l'expérience inédite, pour ceux qui ne connaissent pas encore le format, c'est une heure d'échange avec une personnalité inspirante par son expertise, par son expérience. 5 questions pour toi aujourd'hui, Raphaël. On va parler évidemment expérience et métaverse, qui sont au cœur des enjeux des clients de OnePoint. Donc je vais te laisser te présenter et surtout parler de Reality, de ton entreprise que tu représentes. Raphaël est un garçon que l'on connaît bien chez OnePoint, puisqu'on a eu la chance de l'avoir avec nous, puisque Raphaël est le fondateur de Geronimo, qui est une entreprise qu'il a vendue à OnePoint. Geronimo que tu as fondé il y a une dizaine d'années, je crois, c'est ça ?
Exactement.
Ah, t'es comme moi.
Exactement.
Merci de ne pas m'avoir laissé tout seul avec mon micro éteint. Donc voilà, Geronimo il y a 10 ans, et maintenant la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, donc Reality, que tu as fondé il y a 10 mois, je crois, avec les mêmes associés, ou le même associé en tout cas, Jérôme, en partie. Notre sujet aujourd'hui, Raphaël, c'est donc l'expérience, les expériences, la manière dont on les vit. Donc on adresse ce sujet déjà dans le monde physique, avec nos clients qui l'adressent dans le monde physique, dans le monde digital, et donc évidemment maintenant dans les métaverses, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a aussi beaucoup de buzz, on entend beaucoup de choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'entendre des cas d'usage concrets. On a eu le temps de préparer ça un petit peu ensemble aujourd'hui. Donc j'entends que tu as des réponses très concrètes à nous apporter, donc c'est ça qu'on veut entendre aujourd'hui. Donc ma première question pour toi, d'abord je vais te laisser te présenter. Ma première question pour toi, c'est donc c'est quoi Reality et qu'est-ce que tu y fais?
Bon, déjà, merci Patrick de me recevoir aujourd'hui dans le LifePoint des bureaux de OnePoint que je connais bien puisque je les ai fréquentés pendant quasiment 2 ans. Donc je suis ravi de revenir, je n'étais pas revenu depuis mon départ, donc en janvier 2020, ça remonte maintenant, le temps passe vite. Et donc je suis assez ému de revenir ici, c'est un bon moment de partage qu'on va avoir tous les deux avec le reste des personnes qui participent à distance ou en présentiel. Donc je suis ravi déjà de retrouver les locaux de OnePoint. Merci de m'avoir invité et de me donner la parole aujourd'hui.
On est content de t'avoir, tu le sais.
Alors pour me présenter, donc comme tu l'as dit, j'ai eu la chance de monter une première boîte que OnePoint a rachetée en 2018, donc qui s'appelle Geronimo, qui était à l'époque, ou au démarrage en tout cas, un mobile game studio. Donc on a pendant 2 ans, à partir de fin d'année 2012 jusqu'en milieu d'année 2014 à peu près, on était 3 associés, on a monté des jeux mobiles, c'était la grande mode à l'époque, des trivia games, pour lesquels on avait fait plusieurs millions de téléchargements, ce qui était plutôt pas mal. On n'était pas très bon en monétisation à l'époque, faute de peut-être d'être bon en acquisition, en tout cas de ne pas avoir trouvé la partie monétisable au cœur de nos produits. Et donc on a vite évolué vers un modèle de service qui s'est bien développé. Et donc ça a été le cœur de notre activité pendant 4-5 ans par la suite. Donc l'agence Geronimo est devenue une agence spécialisée en développement d'applications mobiles. Et on a rejoint les rangs de OnePoint après un rachat, et dans lequel on a passé donc 2 ans à opérer, comme tu le sais, une partie des équipes de Tech Studio qui était notamment orientée sur tout ce qui était développement d'interface web et mobile. Donc moi je suis parti ensuite en 2020, démarrage du Covid, j'avais très envie de remonter une boîte tech, ce qui était aussi la raison de mon départ. Et donc avec mon ancien associé Jérôme Guilmet, que tu connais, qui lui plutôt a un profil et une casquette tech, on passait beaucoup de temps ensemble sur les réflexions autour de remonter une boîte, quelles étaient les thématiques sur lesquelles on serait ravi de pouvoir se réinvestir, à la fois avec une vision et à la fois avec aussi un plaisir du quotidien de savoir qu'on aime innover, on aime rentrer sur des sujets tech un peu nouveaux. Et à côté de ça, t'as Zach, qui lui est le troisième associé, qui est à nos côtés aujourd'hui, qui lui est cofondateur d'une boîte qui s'appelle Festiquet, qui a été pendant 12 ans un opérateur de distribution de tickets de festival, qui distribuait plus de 3000 festivals dans le monde, qui était assez gros, une grosse marketplace, qui a connu pendant le Covid une période assez compliquée, comme tu peux l'imaginer, puisque c'est des événements physiques, et donc qui a dû un petit peu réorganiser son modèle, notamment à l'été 2020, et qui a été, je dirais, peut-être les prémices de nos réflexions sur le positionnement de Reality que je vais te présenter, que je vais vous présenter. Mais de comment est-ce que je réimagine les événements à distance pour attirer une population nombreuse dans le divertissement. Et donc ça a été le démarrage, pour sa part en tout cas, des premiers live events pour entertain une population autour de la musique. Alors on a vu, et il a vu notamment les limites autour de solutions comme Opin, comme Zoom, etc. sur des populations importantes dès lors que tu commences à avoir plusieurs centaines, voire milliers de participants, et qu'il faut les entertain, où il faut retrouver aussi un côté un petit peu sensationnel, où c'est pas évident. Et je dirais qu'avec la montée en puissance de toutes les thématiques métaverses à la fin 2021, ça nous a donné l'idée de nous positionner sur un modèle de proposition d'accompagnement d'entreprise sur la création d'événements virtuels sur les différentes métaverses plateformes. Donc en fait, on a lancé cette boîte en janvier 2022, donc il y a quelques mois maintenant, il y a 11 mois à peu près, avec comme idée de justement créer un produit, un outil, une sorte d'infrastructure qui allait s'interfacer aux métaverses existantes et qui allait permettre de démocratiser l'accès à ces espaces à travers l'événement.
Donc pardon, pour qu'on comprenne bien, ce que vous proposez, c'est des plateformes d'expériences événementielles qui sont des plateformes propriétaires ou qui sont en lien avec les plateformes qu'on connaît, enfin avec les métavers qu'on connaît.
Alors en fait, c'est un outil web, donc c'est un site web, je dirais presque classique, avec un modèle SaaS, depuis lequel tu vas pouvoir, en tant qu'entreprise, choisir la métaverse sur laquelle tu veux créer une expérience, de courte ou de moyenne ou longue durée, depuis laquelle tu vas ensuite avoir, une fois que tu auras fait le choix de la métaverse sur laquelle tu veux créer ton expérience, tu auras une librairie d'assets virtuels, des bâtiments ou des espaces virtuels.
Que vous créez pour les clients.
Alors qu'ils seront déjà créés, okay. Donc avec une librairie dense, avec un nombre important d'espaces, de venues, qui seront d'abord designés par Reality, mais demain potentiellement par des designers externes. Donc un genre de librairie collaborative qui pourra être abondée par des externes, par des designers, des agences, etc., qui pourront monétiser même l'utilisation de leurs espaces et qui pourront être mis à disposition du client au moment de la création de son événement. Cet espace ensuite, donc l'idée c'est d'avoir des espaces dédiés par typologie d'événement, de manière à ce que chaque créateur d'événement entreprise puisse se retrouver à travers un espace autour de l'événement en question qu'il est en train de créer.
Salon, ou alors un événement musical, un concert, etc.
Alors il y a plein de typologies d'événements, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais en effet, tu as des événements dans le corporate, tu as des événements dans l'entertainment, tu as des événements internes, des événements externes, etc. Donc tu as énormément de typologies d'événements. L'idée, c'est justement d'adresser au marché un nombre important de venues, donc d'espaces digitaux, virtuels qui vont permettre à l'utilisateur créateur de se retrouver dans un espace en question qui correspondra à sa typologie d'événement. Donc ensuite, cet espace, il peut le customiser, il peut changer les couleurs, les textures, les matières, etc. Et ensuite, il a tout un jeu de fonctionnalités qu'il peut configurer, qui sont des fonctionnalités type d'un événement d'entreprise ou d'un événement à destination d'une communauté qui peut être une communauté d'entreprise, une communauté de final customers.
Ok, tu peux peut-être nous présenter quelques événements. J'ai vu que vous en avez déjà organisé pas mal pour des entreprises, pour des salons, pour des organisateurs de salons, pour la BPI aussi, ouais, je crois.
Tout à fait.
Tu peux nous donner quelques cas concrets?
Bien sûr. Donc là, pour revenir un petit peu sur la chronologie de la boîte, et ce qui nous a amené ensuite à créer des événements pour le compte d'entreprise. Donc l'idée du positionnement, c'était d'avoir, comme je te l'ai dit, un outil web, un espace web assez classique, traditionnel, pour que l'entreprise classique ou l'entreprise en tout genre puisse se retrouver, non pas perdue avec un environnement web 3 qui parfois peut être un petit peu difficile en termes de user experience, mais là très facile d'accès avec une interface, je dirais, comme elle pourrait le retrouver sur ses habitudes de consommation d'outils en tout genre, mais qui, lui, fait ensuite le pont, cet outil, avec les différentes métaverses, et qui va déployer donc un bâtiment virtuel sur un terrain virtuel, avec tout un tas de fonctionnalités, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, qui correspondent à la nature de l'événement en question du client créateur, le client entreprise. Donc, comme tu le sais, développer un outil, développer un produit digital, ça prend un peu de temps. La boîte étant jeune, donc on a commencé le dev au mois de février-mars de cette année, Et en attendant de travailler sur le produit, en parallèle du travail sur le produit, on a décidé évidemment de se confronter au marché et de commencer à créer des événements virtuels. Donc là, on est rentré dans une phase de confrontation au marché et de discussion avec différents acteurs qui étaient intéressés par le fait de créer une expérience virtuelle de type événementiel. Donc on s'est dit qu'on allait commencer avec les différentes plateformes qui nous intéressaient, notamment Decentraland, The Sandbox, Spatial, Roblox, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Mais donc on a commencé à adresser et à créer, je dirais manuellement, donc un peu en mode serviciel, des expériences de type ponctuel, de courte durée, donc de une journée, deux journées, trois journées, avec des clients, et notamment des clients du monde de l'événement physique, qui souhaitaient enrichir, amplifier l'événement physique par un événement virtuel sur une métaverse.
C'est en parallèle d'un événement physique pour l'instant, c'est pas à la place d'eux, c'est ça ?
Exactement, c'est en parallèle, donc c'est un jumeau numérique, souvent appelé comme ça. Donc il y a un événement physique, et en parallèle, donc l'événement physique par définition, il est local, il est fini puisqu'il est dans un environnement physique qui réunit un nombre de personnes limité, en général par la dimension de l'espace. L'intérêt d'avoir un événement virtuel, c'est de pouvoir amplifier son rayonnement, de pouvoir toucher un nombre de personnes quasi illimité, de toucher des gens à l'international, et donc de proposer les contenus qu'on propose sur l'événement physique à l'étranger auprès de ces utilisateurs qui n'auront peut-être pas pu se déplacer le jour de l'événement physique. Donc c'est en parallèle et en live en même temps que l'événement qui a lieu en physique. Exactement.
Ok, alors, tu veux peut-être terminer sur la présentation de Reality. J'ai une question sur les attendees justement de ces événements. Je te laisse terminer.
Donc juste pour finir un petit peu sur la partie produit. Donc le produit, comme tu l'as compris, on est rentré dans une phase de construction progressive, donc qui a évolué aussi entre le mois d'avril et aujourd'hui. Mais à l'époque, donc on se positionne avec la volonté de créer un outil qui va permettre à toutes sortes d'entreprises, voire potentiellement même d'individus, de créer une expérience depuis une interface facile d'accès et depuis laquelle, en quelques minutes, je vais pouvoir lancer une expérience sur n'importe quel de ces mondes. La contrainte à l'époque, c'est quoi ? Et elle est toujours présente. C'est que quand je suis une boîte PME classique ou même une grosse structure ou un petit entrepreneur, je veux créer une expérience sur un de ces univers. Il y a pas mal de freins en fait, c'est-à-dire que il y a plusieurs moyens de le faire, mais qui sont tous avec des problématiques différentes. En tant qu'entreprise, je veux créer une expérience. Quelle va être ma direction ? Soit je vais me confronter donc à une agence, donc je vais devoir travailler avec une équipe qui va me prendre 4, 5, 6, 7 semaines, parfois même plus, pour pouvoir créer une expérience qui va durer une ou deux journées. Le coût associé évidemment est important. Donc j'ai pas moi en interne, en tant qu'entreprise, de designer 3D, de développeur sur ces environnements qui sont nouveaux. J'ai pas l'expertise ni la connaissance de savoir quel type de fonctionnalité il faut intégrer à mon expérience, etc. Donc ça, c'est le premier choix potentiel de l'entreprise qui veut créer une expérience virtuelle. Le deuxième, potentiellement, c'est d'aller voir la plateforme. La plateforme, elle n'a pas vocation à la base, en tout cas, à créer et s'adresser à un client entreprise final pour lui créer une expérience custom. C'est pas son positionnement. Ces espaces open metaverse, comme on les appelle, sont des espaces qui ont vocation à être un peu comme des réseaux sociaux d'hier, c'est-à-dire adressés et ouverts à des créateurs, mais avec des outils qui permettent justement la construction d'expériences sur leur environnement. Et donc, non pas venir customiser une expérience ponctuellement pour un tiers ou une entreprise. Donc, certaines d'entre elles ont commencé à le faire parce que c'était les débuts de leurs activités, ou en tout cas à proposer de le faire par des agences tiers, mais la plupart n'ont pas donné la possibilité de le faire. Donc en tant qu'entreprise, les seuls moyens pour pouvoir créer une expérience, c'était soit de le faire moi-même en interne, soit de le faire à travers une agence, soit de le faire avec la plateforme elle-même, à un coût qui était souvent important. Et donc on a vu l'intérêt de venir avec une solution clé en main, en quelques minutes, adresser la possibilité de créer une expérience directement sur ces interfaces. Donc pour dérouler ensuite, j'ai différentes fonctionnalités directement sur mon interface que je peux utiliser, et que je peux rajouter. Je peux rajouter un shop d'NFT, par exemple, si je veux distribuer un produit NFT virtuel au sein de l'expérience. Si c'est un congrès, par exemple, je peux rajouter des stands virtuels pour mes exposants. Sur chaque stand, je vais pouvoir rajouter une vidéo professionnelle, un slideshow, un lien de redirection vers un site externe. Je peux mettre un avatar host qui va venir discuter avec les personnes de passage. Alors, soit c'est quelqu'un de mon équipe, soit en tant qu'exposant, soit c'est un avatar type bot qui a un discours déjà préenregistré, qui va collecter de la donnée, etc. Donc ce type de fonctionnalité. Je peux mettre un écran au mur au sein de l'expérience virtuelle, et sur cet écran, je vais pouvoir diffuser un live stream, donc qui a lieu par exemple en parallèle d'un événement physique, ou une vidéo préenregistrée. Je peux mettre de la musique, je peux laisser un jukebox, donc laisser libre choix à l'utilisateur consommateur de changer lui-même la musique. Je peux rajouter du merchandising, donc potentiellement mettre des t-shirts, des casquettes virtuelles que l'utilisateur va pouvoir acheter ou récupérer gratuitement et porter pendant l'événement. Donc il peut être aux couleurs de l'événement, ou de l'entreprise en question, etc. Je peux rajouter des chasses au trésor, des quiz, etc. Donc j'ai plein de fonctionnalités comme ça que je déroule dans la création de mon événement. À la fin de la création, on me demande quel jour je veux créer mon, pour avoir lieu l'événement, la durée. Et ensuite, je, en tant qu'outil, on déploie une landing page qui permet de commercialiser l'événement pour l'entreprise en question. Donc derrière cette landing page, elle distribue soit un système d'URL ouverte pour que l'événement soit publiquement accessible à tous, soit on donne la possibilité de créer un système de NFT ticket qui peut être distribué de manière payante. Donc ça permet aussi aux créateurs de commercialiser, de monétiser les places qui vont être accessibles, qui vont rendre accessible l'événement.
Ok, alors je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. On comprend qu'il y a une infinité de possibilités, de fonctionnalités qui sont proposables. Par contre, je me fais la voix des clients qu'on a la chance avec lesquels on a la chance d'échanger sur ces sujets chez OnePoint. Et les enjeux qui se présentent à eux aujourd'hui, ce que l'on entend, sont les mêmes que ceux dont tu parlais tout à l'heure au début de Geronimo. C'est qu'à partir du moment où on met en place des plateformes, il faut qu'il y ait du monde qui vienne. Donc toute la partie acquisition semble être celle qui pose problème, parce qu'il y a effectivement une infinité de mondes, une infinité de possibilités, de fonctionnalités qu'on va pouvoir vivre à l'intérieur de ces mondes-là, mais il semblerait qu'il n'y ait pas grand monde. Alors, est-ce que c'est bad buzz, comme ce qu'on a entendu sur l'histoire de la communauté européenne qui aurait dépensé combien, 400 000 euros, je crois, quelque chose comme ça, pour faire venir finalement 4 personnes ou 5 personnes sur un monde, sur un événement comme celui-là. En tout cas, j'imagine que toi, tu es confronté à ce genre de sujet. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Alors, ta vision à toi, c'est que c'est vrai, c'est pas vrai, et si c'est un petit peu vrai quand même, qu'il n'y a pas encore complètement la foule attendue, comment faire pour adresser ce sujet-là? Parce que c'est bien beau de mettre en place des expériences, comme tu l'as dit, ça coûte de l'argent, il faut qu'en face les clients, les clients de OnePoint, qui sont les grandes entreprises et les acteurs publics, retrouvent du monde en face de ça. Comment on fait pour faire venir du monde sur ces métavers, pour les attirer aujourd'hui?
Bon, alors déjà, il faut revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire que l'intérêt de créer un événement ou une expérience virtuelle. Ce qu'on a observé, nous, les derniers mois, c'est qu'il y a deux approches des entreprises. Soit elles veulent utiliser les métaverses comme outils, comme approche vraiment purement utilitaire et fonctionnelle d'un environnement digital qui va me permettre de réunir un nombre important d'utilisateurs avec des fonctionnalités intéressantes immersives, ce que je ne retrouve pas sur un Zoom, sur un Hopin, etc. Je reviendrai aussi dessus. Soit elles veulent chercher du trafic nouveau, notamment auprès d'une génération jeune et nouvelle, qui sont captives de ces sujets Web3, gaming, métaverse, etc. Et donc, à ce moment-là, aller sur des environnements qui, eux, ont déjà du trafic existant. Donc vraiment, c'est les deux orientations. Soit je vais sur une plateforme créer une expérience métaverse parce que je veux toucher une nouvelle cible avec du trafic, soit je veux utiliser uniquement la métaverse comme outil expérientiel. Et c'est moi-même, en tant qu'entreprise, qui vais amener mon trafic sur l'événement en question ou l'expérience.
Je remarque, pardon, juste petite parenthèse, tu dis la métaverse, et c'est le, comme le Covid. On est...
Je pense que chacun s'approprie.
Ça dépend des semaines.
Exactement. Donc si tu veux... Sur ces deux environnements, sur ces deux possibilités, sur la partie trafic, pour répondre un peu à ta question directement, les entreprises qui cherchent aujourd'hui à attirer du trafic sur leurs événements ou sur leur expérience, elles vont plutôt essayer de se diriger vers des environnements ou des métaverses ouvertes qui, elles, ont déjà du trafic. Et donc là, il y a encore deux types de plateformes existantes. On a les acteurs du gaming existants, qu'on associe parfois à métaverses qui ne le sont pas vraiment, mais qui pourront le devenir demain. D'ailleurs, elles sont en train de faire des évolutions dans leurs activités, dans leurs organisations, dans leurs fonctionnalités, pour se connecter à des blockchains, pour permettre des paiements en crypto, pour permettre de décentraliser l'accès à des assets au sein de leurs expériences, etc.
En tout cas, les expériences et même la commercialisation, je pense à Fortnite, évidemment, avec les skins, etc., ce que tu décris tout à l'heure existait déjà, et il y avait aussi des événements
exactement.
Organisés
donc,
dans
typiquement, tu as ces types de plateformes, Fortnite, Roblox, il y a des dizaines de millions d'utilisateurs quotidiens. Tu as une boîte aussi qui s'appelle Zepeto, qui est plus connue en Asie, il y a 20 millions apparemment de daily active users. Donc c'est des plateformes qui sont plus gamifiées, qui touchent un public peut-être plus jeune, donc qui intéressent certaines marques pour des activations, mais pas toutes. Sur la partie monétisation, ça commence, mais surtout avec, comme tu le disais, des skins, du wearable, etc. Donc ça touche pas toutes les industries. Néanmoins, il y a déjà énormément de trafic. Et ce trafic, il s'actionne. Il y a des taux de conversion affichés qui sont très importants, beaucoup plus même que sur des sites web classiques ou sur des activations même réseau social. Donc il y a beaucoup d'acteurs et même des grosses agences qui aujourd'hui s'intéressent à venir créer des expériences ou à proposer à leurs clients de créer des expériences sur ces environnements parce qu'il y a déjà un trafic. Les boîtes qui ont testé des expériences sur Decentraland, sur Sandbox, sur Spatial en attendant de ces plateformes qu'elles provide du trafic, elles ont été un peu déçues pour certaines, parce que le trafic ne vient pas encore de ces plateformes. Il est existant, mais il est encore réduit. Et donc aujourd'hui, quand on vient créer une expérience sur ces plateformes, il faut s'attendre à faire un marketing conséquent pour pouvoir attirer un public qui, oui, va venir en partie de la plateforme parce qu'elle met un effort, mais aussi d'un trafic qui va venir par le marketing quand, en moi, créateur, j'ai attiré sur l'événement en question.
Ok, donc c'était bien mon point. Donc on entend bien ce que tu dis. Il y a soit je vais aller utiliser du trafic existant, soit je vais devoir le créer moi-même. Est-ce que toi, tu as des exemples d'expériences réussies, de cas concrets qui, encore une fois, pourraient éclairer nos clients de campagne qui aurait réussi à faire venir du monde dans un espace, sur un temps, sur un événement, hein, sur votre métier, sur un temps contraint, j'allais dire, sur un jour ou deux, pas sur un magasin, par exemple.
On a eu, c'était un de nos premiers événements, on a fait Paris Blockchain Week au mois d'avril, Paris NFTD, même sur une journée. L'événement durait 4 jours, ils ont fait une journée dédiée au NFT. On a eu 3300 participants sur une seule journée, donc ce qui est très important. Il y a eu sur tout l'événement Paris Blockchain Week, je crois, 2800 participants physiques. Là, on a touché 3300 participants qui sont connectés en moyenne 23 minutes, qui venaient de 100 pays différents, qui ont assisté au live stream des différentes conférences qui avaient lieu physiquement à Paris, qui ont pu échanger avec les différents participants, exhibiteurs, les exposants qui avaient leur stand. Donc chaque boîte avait son stand virtuel sur lequel il y avait un petit slideshow de son activité, sur lequel il y avait un host avec son avatar qui pouvait parler avec la personne de passage. On a droppé, comme je le disais, du merchandising brandé Paris NFTD. Donc l'utilisateur qui récupérait son t-shirt pouvait le porter pendant l'événement, pouvait le collecter sur son wallet et pouvait le réutiliser sur une autre expérience au sein de Decentraland quand il se reconnecte, puisque tu le récupères sur ton wallet et tu l'as dans ton portfolio, donc tu peux réutiliser l'asset par la suite. On a émis de la musique, c'était sympa, c'était divertissant. Voilà, si tu veux, ça a fait un petit peu l'équivalent de ce qu'on aurait pu trouver comme expérience sur l'événement physique. C'est de courte durée, je choisis la plage sur laquelle je vais me connecter, il y a une conférence qui va m'intéresser, je vais passer 20-25 minutes, je vais échanger avec les différentes personnes de passage, je vais récupérer un POAP, Proof of Attendance, qui me permet socialement de montrer...
Peut-être, pardon, expliquer pour ceux qui ne sont pas au courant ce que c'est que le...
Bien sûr. Les POAP. Alors, il y a une mode assez importante, mais qui continue finalement, c'est assez pérenne, de récupérer sur des activations ou sur des expériences ponctuelles métaverses, ce qu'on appelle un POAP, P-O-A-P, c'est Proof of Attendance, je sais pas, le dernier P, je le connais, protocole. Merci. Qui permet à l'utilisateur qui a un wallet de pouvoir collecter cette espèce de pin, ce badge, qui lui atteste qu'il a participé à l'événement et qui peut socialement être fier de présenter sur son wallet pour dire qu'il a bien participé à tel ou tel événement. Quand c'est un événement, un concert de Justin Bieber ou un truc comme ça, bah, t'es toujours content de conserver ton ticket physique. C'est un peu la même chose, sauf que l'intérêt de ce badge, c'est que tu vas pouvoir potentiellement le réactiver demain. Tu vas pouvoir avoir accès à ce wallet, tu vas pouvoir collecter le wallet de l'utilisateur qui a récupéré son badge en question, en tant que créateur, et ce wallet, tu vas pouvoir l'identifier, l'analyser, voir à quel type d'individu tu as affaire. Donc c'est un moyen de comprendre aussi un petit peu la population qui a participé à l'événement, et éventuellement de la réactiver demain. Donc voilà, c'est un intérêt côté utilisateur et c'est un intérêt côté créateur.
Ok, très très clair. J'aimerais qu'on rentre aussi au cœur de ce qui est notre sujet aujourd'hui, donc sur l'expérience. On entend, alors tu nous as répondu sur la partie acquisition, comment on fait pour faire venir du monde. Effectivement, il y a des moyens, il faut... de ce que je comprends, s'adresser à des communautés qui sont quand même plutôt en affinité déjà aujourd'hui avec le sujet dont on parle. C'est pas non plus, on comprend qu'il y a quand même des difficultés à t'entendre, enfin des difficultés ou encore, disons, peut-être pas des difficultés, mais des raisons pour lesquelles on n'est pas sur des foules de gens qui aujourd'hui se pressent. Il faut vraiment être encore très très ciblé, c'est une des clés de succès. Après l'expérience qu'on va vivre sur ces métavers. Je te titille un petit peu, évidemment, toujours comme je te le disais sur la partie acquisition, sur la partie de ce qu'on vit à l'intérieur. On va entendre Second Life, on va entendre les Sims, on va entendre des expériences virtuelles qui sont un peu dégradées, voire largement dégradées, qui ne semblent pas, alors tu dis il y a une multitude de fonctionnalités possibles, mais qui ne semblent pas répondre à des attentes complètement réelles. On en a parlé un petit peu en préparant ce rendez-vous aujourd'hui. La possibilité d'aller faire du shopping, d'aller acheter quelque chose, d'aller se balader dans des magasins, est-ce que ça c'est une des voies possibles intéressantes? Est-ce que tu en vois d'autres qui permettraient, excuse-moi, de vivre des expériences justement de manière vraiment différente et vraiment satisfaisante, exaltante, ce qui ne semble pas être complètement le cas aujourd'hui et qui freine beaucoup des attendees à ces événements?
Alors, les premières observations que je voudrais te faire, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines déceptions de la part de consommateurs ou de créateurs. Pour la première raison qui est que beaucoup de personnes aujourd'hui, à travers la hype qu'il y a eu autour de ces sujets métaverse, se font une idée préconçue de ce que peut être la métaverse avant de l'avoir testée. Et donc beaucoup vont idéaliser un petit peu le type d'expérience qu'elles pourraient recevoir en testant une expérience métaverse, et notamment un peu comme le film Ready Player One. C'est-à-dire j'arrive, j'ai mon casque, je suis plongé dans une expérience immersive incroyable, je vais naviguer avec des user flows complètement, complètement dingues, et je vais avoir un effet tellement wow que je vais en ressortir exalté d'un monde demain changé par ce type d'expérience. On n'y est pas encore, c'est une réalité. Et donc c'est là que la déception commence. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui ont décidé de rentrer, et notamment ces acteurs comme Decentraland, The Sandbox, etc., de rentrer sur ces univers virtuels en créant des open metaverses pour proposer à un public large de consommateurs de commencer à participer à une nouvelle économie qui répond aussi un petit peu à ce qu'est le Web3 en partie, c'est-à-dire le fait de pouvoir échanger librement sur un espace anonymement, le fait de pouvoir posséder Internet ou en tout cas une partie de ma consommation sur Internet avec des actifs digitaux.
La fameuse décentralisation qu'on attend du Web3 par rapport aux grandes plateformes qui aujourd'hui régissent ce monde Web2.
Exactement. Une user experience qui change par rapport à ce dont j'ai l'habitude de voir sur un site classique 2D depuis 20 ans. Et donc là, avec une expérience plutôt en 3D, etc. Donc ils ont fait le choix de rentrer sur ces univers en les créant, mais avec des contraintes techno qu'on connaît, qui sont la bande passante d'Internet, qui sont la qualité des hardware qu'on a encore aujourd'hui, etc. Et donc qui font que ces opérateurs créateurs d'environnements digitaux, 3D, métaverse, sont obligés de faire des choix. Ils sont obligés de faire des choix techniques sur la qualité des designs qu'ils vont proposer pour avoir en parallèle l'ensemble des fonctionnalités qui pour eux leur semblent primordiales pour une première version de leur métaverse.
Est-ce que pour toi c'est un frein ça, aujourd'hui cette...
C'est une limite, c'est pas un frein, mais c'est une limite. Mais c'est une progression qui va se faire dans la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, un des vrais sujets aujourd'hui sur les plateformes métaverse, c'est le nombre d'utilisateurs concomitants simultanément. Donc concomitamment connectés. Aujourd'hui, ce qu'on retrouve, c'est que tu peux avoir sur la plupart des univers, enfin pas tous d'ailleurs, plusieurs milliers de personnes connectées simultanément, d'accord ? Si ce n'est que chaque utilisateur ne peut se retrouver que dans une instance maximum de 100 personnes ou plus. Alors qu'est-ce que c'est une instance ? En fait, c'est que une instance, c'est que je me retrouve dans une expérience qui a été créée pour tous, pour les plusieurs milliers de personnes connectées. Donc l'expérience, elle est la même, tout le monde voit la même chose. Seulement autour de moi, je ne vais voir que 100 personnes simultanément. Et en fait, il y a 1000 personnes qui sont connectées, mais sans le savoir, la plateforme me réalloue à différentes instances au fur et à mesure de mon expérience, et je passe d'une instance à l'autre. Donc peut-être que toi, Patrick, et moi, on est connectés, on est au même endroit sur les strates ici, dans l'expérience, mais on ne va pas se croiser parce que toi, tu es dans l'instance 4 et moi, je suis dans l'instance 1. Donc ça, typiquement, c'est un choix technique qui est obligé de faire la plateforme au moment où elle crée la possibilité de se connecter à plusieurs milliers de personnes pour enrichir une expérience adressable à tous, mais en même temps, pouvoir charger des contenus en 3D qui sont de qualité, qui ne rament pas, etc., auprès d'un minimum de personnes suffisamment concernées, et donc qui est aujourd'hui de l'ordre de 100 par rapport aux usages. Donc ça, typiquement, c'est une contrainte. C'est une contrainte qu'on a aujourd'hui qui sera vraisemblablement différente demain parce que les hardware évoluent, parce que voilà, les softwares évoluent, etc. Et donc, ça ne va aller évidemment qu'en progressant. Mais aujourd'hui, dans l'état de l'art du marché, la plateforme qui crée une métaverse, elle est obligée de se contraindre à ses choix et elle est obligée de faire une restriction sur soit la qualité des designs, soit le nombre simultanément de personnes qu'elle peut connecter, typiquement Spatial, qui est une des plateformes aussi principales aujourd'hui dont on entend beaucoup parler, a fait le choix de ne avoir que 50 personnes connectées simultanément. Tu ne peux pas avoir plus que 50 personnes. Donc eux, ils ont fait le choix des designs et des graphismes parce que c'est beaucoup plus quali, ça s'adresse à donc différents types d'usages, etc. Mais en contrepartie, bah, c'est pas une expérience où tu peux te retrouver à plusieurs milliers de personnes. Donc eux, ils ont fait le choix de la qualité des designs. Alors juste pour enrichir un peu ce propos, aujourd'hui aussi, on voit l'utilisation des métaverses sur un web browser, d'accord, pour que ça soit accessible. Il y a tout l'enjeu d'accessibilité qui est important, de manière à ce que ça soit très facile pour se connecter en un clic, etc. Il y a certaines plateformes qui ont fait le choix d'avoir un install, donc un applicatif, comme The Sandbox par exemple, pour que la qualité des designs soit différente, soit plus fluide, etc. C'est un frein potentiellement à l'usage d'avoir à faire une installation sur son ordinateur. Demain, potentiellement, avec notamment des technologies comme le pixel streaming, etc., tu vas avoir des technos qui seront construites sur Unreal Engine, par exemple, avec des designs très évolués, Et grâce au Pixel Streaming, le moteur ne sera pas sur le PC de l'utilisateur avec une installation, mais sera à distance sur un PC qui marche très fortement et qui renvoie un live de la machine qui, elle, a créé le moteur de gaming et qui le renvoie à l'utilisateur. Sauf qu'aujourd'hui, ces problématiques, elles sont qu'il n'y a pas de solution de marché qui propose de Pixel streamer un nombre de personnes concomitamment important. Donc voilà, si tu veux, ça c'est des problématiques un peu techniques, mais ce qui fait que les opérateurs sont obligés de faire des choix et donc de proposer en termes d'user experience à leurs clients utilisateurs finaux, bah, des limites à un moment donné sur une des matrices de fonctionnalités.
Ok, donc il y a des limites au nombre de personnes avec lesquelles je peux interagir. Il n'y a pas de limite sur le type de fonctionnalité. Aujourd'hui, on voit qu'on arrive à peu près à faire toutes les fonctionnalités, de visiter des musées ou d'aller acheter des choses, etc. Sébastien Badaud de Ledger, qui était assis dans ton siège il y a quelques semaines, lui faisait l'analogie, et je voulais ton avis là-dessus, entre le YouTube du début et les créateurs, avec aujourd'hui ce qui se passe dans les métavers, dans le sens où bah, tu peux créer autant de contenus que tu veux, super intéressant, il y a plein de possibilités pour penser dans ta tête des contenus que tu pourrais mettre sur YouTube, sauf que s'il n'y a pas YouTube ou qu'il n'y a pas les spectateurs de YouTube ou qu'il n'y a pas la capacité ou l'audience sur YouTube, bah, ça ne sert pas à grand chose. Donc là, lui, il parlait globalement de limitations technologiques qui sont celles dont tu parles aujourd'hui, mais qui finalement se sont résolues assez vite. Tu vois le même type de chemin. Alors,
pour le trafic, justement, et c'est d'ailleurs le positionnement de Reality, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, venir sur une métaverse ouverte, sociale et pas trouver de monde, c'est problématique. Et donc ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que celles qui marchent, c'est soit celles qui sont très gamifiées, donc vraiment quasiment un jeu. On parlait tout à l'heure de Fortnite, Roblox et autres, etc. Donc là, il y a des publics concernés, c'est très enrichissant, c'est très intéressant, il y a un trafic énorme, et c'est des gens qu'on peut activer dans différents domaines, mais qui viennent à la base d'une expérience gaming. Soit, et c'est notre positionnement à nous, la possibilité de venir créer une expérience professionnelle. Parce qu'en fait, tu ne viens pas pour avoir de l'émotion, tu viens pour accéder à du contenu ou rencontrer du monde de manière dédiée, spécifique, sur un projet, une entreprise, un service, etc. Donc nous, on croit très fortement en ça, et c'est la raison pour laquelle on vient utiliser ces technologies donc 3D immersives comme utilitaires pour pouvoir rassembler des populations importantes à distance autour d'événements professionnels. Donc ça peut être des événements internes, ça peut être des événements externes, mais toujours à des fins professionnelles à la base. Et donc, si tu veux, ça change la perspective du trafic que je vais adresser sur mon événement ou sur mon expérience, puisqu'en fait, l'utilisateur ne vient pas juste pour, si tu veux, voir ce qu'il va y trouver en termes de contenu, etc. Il sait pourquoi il vient. Il y a des gens qui ont créé un contenu dédié professionnel. Il vient pour accéder à ces contenus parce qu'il est à distance, et il vient pour avoir une expérience qui est plus enrichie que ce qu'il peut avoir sur un Zoom, parce que sur un Zoom, je suis passif, je regarde un écran. Au bout d'un moment, je me lasse un petit peu. Je ne peux pas échanger avec les 2-3 personnes qui sont sur le Zoom si on est 1000 connectés. C'est impossible. Donc là, ben, je suis maître de mon événement. Je peux me balader dans un bâtiment. Je peux aller dans une room ou dans une autre. Donc, je suis maître du contenu auquel je vais vouloir accéder. Et je peux en même temps échanger avec les différents participants à 3 ou 4 grâce au son géospatial sans être dérangé par le reste du groupe, etc. Donc, on utilise vraiment les fonctionnalités aujourd'hui de ces univers 3D comme fonctionnalité purement utilitaire pour répondre aussi à des besoins qu'on a identifiés, et notamment grâce au à cause du Covid, mais grâce à cette période de changement, je dirais, où on a été obligé de revoir un petit peu nos habitudes de consommation, de réunion à distance.
Alors, on porte ici la conviction, puisque tu connais la maison, de très forte, que le côté utilitaire, le côté rationnel, le côté fonctionnel, est un des aspects des choses, j'allais dire l'aspect technologique, mais que pour l'adoption d'une expérience et donc l'adoption d'un produit aussi ou d'une manière d'interagir avec un produit, avec un objet quel qu'il soit, pas forcément un objet physique, ce qui compte c'est la mémorisation, ce qui compte c'est le fait que ça s'imprime dans ton cerveau, et ça c'est justement les émotions. Et aujourd'hui les émotions elles semblent assez éloignées du sujet que tu, tel que tu le décris en avec une dimension extrêmement, fonctionnelle, enfin je crois que c'est le terme que t'as utilisé, mais il manque cette partie émotionnelle. Donc on va aller un peu au-delà de l'évidence, puisqu'on est chez OnePoint. On se projette, on comprend aujourd'hui, il y a des limitations technologiques, on comprend qu'il n'y a pas de limitations vraiment fonctionnelles. Il y a des gens comme Reality qui travaillent déjà pour mettre en place ce type d'expérience. Elles sont améliorables, technologiquement il y a plein de choses à faire. En termes d'acquisition, il y a plein de choses à faire. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on se projette un tout petit peu dans l'avenir, pas forcément très lointain. Et d'ailleurs, comment toi tu détermines ce time frame là c'est quoi, on parle de 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, à la fois sur l'adoption en termes de trafic, mais surtout sur la manière dont toi tu projettes que des expériences mémorables, exceptionnelles, vont pouvoir être vécues dans les métavers, puisque aujourd'hui on sent que c'est un petit peu limité. Par quoi ça va passer? C'est quoi les facteurs clés de succès qu'on peut déjà penser pour les mettre en place technologiquement demain?
Alors déjà, je te rejoins sur la partie émotionnelle. Évidemment, c'est qu'il va falloir à un moment donné que l'émotion soit au rendez-vous pour qu'il y ait une masse adoption côté end user. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur la partie professionnelle, on considère que la partie fonctionnelle est suffisante, entre guillemets. Même si l'émotion commence, mais on est au début, on attend évidemment que demain, il y ait une émotion qui soit au cœur de l'expérience. Et donc là, pour répondre un peu plus directement...
Comment on va faire ça, voilà, c'est ça
qui comment est-ce qu'on va faire ça? Bon, déjà, on compte un petit peu sur les constructeurs de devices. On voit aujourd'hui Facebook, Meta, avec l'Oculus. On voit Apple qui a annoncé pour l'année prochaine la sortie de son casque. Est-ce que demain, le casque de Apple va devenir l'équivalent de l'iPhone il y a 10-12 ans? Est-ce que demain, avec l'OS que va créer Apple sur la partie expérience 3D, virtuelle immersive à distance, est-ce que ça va créer tout un système, une plateforme clé pour des développeurs de type d'expérience qui vont proposer, grâce à l'adoption du device, la possibilité de distribuer une expérience de manière complètement exponentielle, parce que évidemment le casque sera au rendez-vous d'une qualité implacable et parce que le soft qui sera développé et en adéquation avec le hard fonctionnera très bien et sera suffisamment quali pour qu'il y ait une émotion ressentie par l'utilisateur final. Je pense que ça, c'est un des critères d'adoption fort. Un opérateur, enfin un constructeur, qui va distribuer dans le marché un casque de manière, enfin de grande qualité, de type d'expérience, avec un système d'exploitation, comme un OS sur Apple, ouvert à tous, ouvert à tout développeur qui voudrait venir créer une expérience et la déployer sur cet environnement. Donc ça, pour moi, c'est un des gros moyens d'adoption de demain sur la partie distribution d'un hardware de type casque virtuel, casque réalité virtuelle, avec un operating system associé. Et ça, la chronologie, ben, elle est difficile à établir. Mais a priori, il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent sur la table aujourd'hui, comme tu le sais. Et Facebook a dépensé plus de 12 milliards d'euros cette année. On n'a pas vu encore un produit au rendez-vous. Maintenant, évidemment, avec des équipes de R&D très importantes et avec Apple qui va lancer son casque très bientôt et d'autres développeurs, même indépendants, qui travaillent sur du hardware de manière très avancée, etc. On espère que d'ici un an, deux ans, trois ans, il y a un casque qui va sortir et qui sera un petit peu le game changer dans le marché du hardware et donc du soft associé. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, autrement, c'est une plateforme référente, un soft, je dirais, donc plutôt côté Metaverse Open, comme on a pu le voir avec certains acteurs, qui viendrait devenir un réseau incontournable de la part des end-users, parce que j'y trouve des contenus de qualité, parce que l'expérience est émotionnelle, parce que je retrouve mes amis qui sont tous connectés dessus. Et donc là, oui, on aura fait le choix de la plateforme, parce qu'ils ont gagné sur la partie fonctionnelle, expérientielle, etc. Et ça, bah, certains s'y sont essayés, pour l'instant, ils n'y sont pas arrivés. Donc je pense encore à Decentraland, The Sandbox qui travaille durement sur le sujet, qui a décidé de ne pas lancer publiquement tant que toutes les expériences n'étaient pas encore créées. Donc aujourd'hui, ils travaillent à la création d'expériences avant d'ouvrir publiquement leur plateforme. Donc on attend d'ici l'année prochaine à ce que la plateforme soit ouverte publiquement. On va voir, peut-être que The Sandbox va réussir à faire quelque chose de sympa. C'est très difficile, mais les perspectives pour moi, elles sont sur l'adoption à travers un hardware de grande qualité qui déterminera un système d'exploitation sur lequel on pourra, en tant que développeur, distribuer des contenus quali, et donc grâce à un distributeur comme Apple, par exemple, ou un autre, hein, une adoption chez les ménages, etc., et donc une utilisation forte et régulière, soit à travers un soft et une plateforme de marché référente, sociale, et qui sera accessible et intéressée par tous.
Alors, c'est intéressant parce qu'au début de notre échange, on parlait des promesses du Web 3, notamment la décentralisation, la réappropriation par chacun d'entre nous de nos données personnelles ou de l'anonymisation que permettent la NFT, la blockchain, etc. Et là, en fait, le monde que tu nous décris, ou en tout cas les acteurs majeurs de ce monde-là, une grande plateforme, des grands constructeurs, du gros hardware, des gros OS, ça veut dire Apple, ça veut dire Meta, ça veut dire les acteurs qu'on connaît déjà aujourd'hui, ou d'autres, effectivement, mais toujours des acteurs extrêmement centralisés. Est-ce que tu vois le monde continuer comme ça alors qu'on nous promet un Web 3 justement avec un autre mode de fonctionnement du web en général, beaucoup moins push et beaucoup plus dans la décentralisation?
Alors je ne sais pas si l'adoption du Web 3 arrivera avant l'adoption de l'expérientiel. En fait, si tu veux, dans la partie métaverse, tu as deux couches. Tu as une partie vraiment purement expérientielle. Donc je peux me détacher complètement de la partie blockchain, Web3, NFT, paiement crypto, etc. Et j'ai la partie décentralisée, Web3, que tu connais, etc., et sur laquelle on peut discuter un long moment. Et les deux peuvent se marier, mais être aussi utilisés de manière complètement séparée. Je pense que sur la partie métaverse, en tout cas, il va y avoir une adoption plus rapide sur l'expérientiel que la partie Web3 décentralisée. Alors on verra demain comment ça s'opère. Mais je pense que le monde n'est pas encore prêt à la décentralisation à 100% des usages, et notamment dans la consommation d'une expérience métaverse. Donc tu auras une population qui va se développer. Tu vois déjà avec l'adoption du nombre de wallets. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est exponentiel. Tu vois, il y a 2 ou 3 ans, il y avait 10 millions, puis 50, puis 200, puis je crois qu'on est à 400 millions de wallets dans le monde aujourd'hui, ou quelque chose comme ça. Voilà, ça ne va faire que monter, et plus les gens auront accès à un wallet et à toutes ces technologies de décentralisation d'accès à de l'information, des assets digitaux, des paiements en crypto, etc., plus potentiellement ces mondes vont se marier, mais on n'y est pas encore. Donc on va voir à quel moment donné ça se rejoint. Mais la décentralisation de l'expérience métaverse, pour moi, il faut scinder les deux sujets. On peut très bien avoir une expérience métaverse qui n'a rien à voir avec le Web3 et donc qui peut être opérée par des GAFA ou des gros acteurs qu'on connaît et qui ont des canaux de distribution beaucoup plus puissants que ceux qu'on connaît dans le monde du Web3. Ou peut-être que l'aspect décentralisé viendra prendre le dessus et qu'à un moment donné, l'expérientiel sera uniquement décentralisée et que c'est par ce biais-là qu'elle sera acceptée de tous. Moi, je pense que ça passera d'abord par l'expérientiel avant le décentralisé.
Ok, alors justement, on va continuer avec une autre question sur cette dimension expérientielle. Toujours, en quoi tu imagines, toi, ou comment tu projettes que ces expériences que l'on va vivre vont être vraiment différentes et non pas la réplique de celles qu'on vit aujourd'hui dans le monde réel? Elles vont être différentes demain dans le métavers. Est-ce qu'elles vont être différentes déjà dans ta vision? Je pense à... Enfin, tu parlais de Ready Player One tout à l'heure. Donc, il y a une tendance, ou en tout cas, certains portent la conviction qu'on va aller vers un monde au plus proche du réel, qui va reproduire le monde réel dans un monde virtuel, ce qui a un intérêt. Mais ce qui en même temps absolument aucun intérêt aussi, c'est pour reproduire la même chose. Et je pense au monde de l'art qui était confronté à la fin du 19e ou au milieu du 19e siècle. À l'arrivée de la photo, le monde confronté, le monde de l'art, de gens qui essayent de reproduire la réalité et qui sont confrontés à l'arrivée de la photographie, se disent à quoi je sers. Ce qui a amené l'impressionnisme et puis l'abstraction et puis les suprématistes. Et donc, du coup, tout disparaît en termes de nécessité de reproduire la réalité, puisqu'il y a un outil technologique qui le fait mieux encore que ce que faisaient les artistes ou les créateurs de l'époque. Est-ce que toi, tu penses qu'on va aller vers une tendance comme celle-là, c'est-à-dire un peu vaine, dans un certain sens, ou au contraire, le fait de reproduire la réalité va emmener encore vers d'autres choses, une autre manière de vivre les expériences que celles qu'on connaît depuis 10 000 ans, sans ces outils-là ou sans ces mondes-là?
Alors, à mon sens, c'est les deux. Et je dirais pas qu'elle est vaine, la première partie, donc le fait d'avoir un univers virtuel qui réplique la réalité, au plus près, pour la simple et bonne raison qu'à mon sens, ces espaces 3D métavers ne sont pas là pour remplacer ton expérience physique réelle du quotidien. Donc on va pas remplacer le monde et c'est pas le but. Pour moi, c'est l'enrichissement d'Internet. C'est comment est-ce que ma consommation d'Internet change? Comment est-ce que j'évolue dans mes usages du quotidien quand je me connecte sur mon mobile ou sur mon ordinateur? Et donc là, j'enrichis l'expérience de ma consommation Internet par une consommation 3D qui, elle, s'amplifie d'un point de vue immersif, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue expérientiel, etc. On va en parler peut-être un petit peu, mais dans la consommation, dans mes achats, dans mes formations, dans mes relations professionnelles,
etc. Un exemple dans lequel on va parler tout de suite sur les achats, ouais.
Juste, donc il y aura pour moi une partie qui sera vraiment une réplique du monde réel, mais non pas afin de le remplacer, au contraire, afin plutôt d'enrichir la manière dont je consomme Internet et le digital aujourd'hui. Et à côté de ça, tu vas avoir un peu comme dans le gaming, une partie complètement déjantée, presque, je dirais, science-fiction,
non reproduction de la réalité,
voilà, ouais. non corrélée à la réalité et de la manière dont je me comporte en tant qu'humain dans le monde physique, etc., avec des phénomènes de gravité, de trucs comme ça qui sont sympas dans les jeux vidéo et qu'on va retrouver dans l'expérience associée à mon expérience qui, elle, va être liée à ce que j'ai l'habitude de voir. Donc pour moi, ça sera un mariage des deux, mais ça veut pas dire que la première événement, pour moi, au contraire, c'est que la première, elle remplace, enfin, elle améliore l'expérience Internet comme je la vis aujourd'hui dans mon quotidien.
Ok, très intéressant. C'est effectivement pas pour remplacer la réalité, mais pour remplacer l'expérience digitale telle qu'on la vit et l'améliorer. Ok, très très clair. On arrive à notre dernière question avant peut-être de prendre des questions ici ou s'il y en a à distance. On prend encore un petit peu plus de hauteur. Qu'est-ce que tu vois comme enjeu majeur pour les acteurs, encore une fois entreprises, acteurs publics, à adresser? Je parle des enjeux macro, sociétaux, sociaux, l'éthique, la cybersécu, évidemment, etc. Quels sont les grands enjeux à adresser en priorité avant même de se lancer ou pour ceux qui sont déjà lancés?
Alors, quand tu dis les enjeux, c'est-à-dire ce qu'on vient y chercher ou les problématiques?
Non, plutôt les problématiques qui sont amenées par une nouvelle technologie, par une nouvelle manière d'adresser des expériences, par une nouvelle manière de vivre le shopping, etc. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent et qu'il faut, sur lesquelles il faut déjà commencer à penser? Je pense évidemment au sujet d'éthique ou de data et de protection des données, etc. Il y en a peut-être plein d'autres, mais qui convient pour nos, ou qui conviendrait pour nos clients d'anticiper avant même de se lancer.
Alors, il y a l'enjeu cyber qui est évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grande difficulté encore à s'assurer de la sécurité de l'expérience. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, en tout cas pour ces plateformes qui sont ouvertes pour la plupart, elles sont accessibles à des développeurs, elles sont connectées pour certaines à des blockchains, pour d'autres non. Elles sont centralisées dans une instance où elles sont complètement décentralisées. Donc déjà, en fonction de la plateforme sur laquelle je vais créer mon expérience, j'ai des enjeux de sécurité qui sont différents les uns des autres. On l'a vu d'ailleurs, ou en tout cas j'en ai parlé avec différents acteurs, certaines grosses boîtes qui ont voulu développer et déployer en interne des environnements 3D, mais qui s'y sont pas prêtées parce que elles avaient des confrontations et des problématiques internes de gestion de sécurité, justement. S'assurer que les gens qui vont se connecter peuvent pas venir créer une faille de sécurité et intégrer l'expérience alors qu'elle fait pas partie de la boîte. Venir récupérer une information en se faisant passer pour un anonyme au sein de l'expérience, mais en faisant croire qu'il fait partie de la société, mais en fait qu'il n'en est pas. La possibilité de venir récupérer des données sur un produit qui serait distribué. On l'a vu notamment, nous, sur Decentraland. On a droppé des NFT au sein de Decentraland. Donc, dès lors qu'on drop des NFT au sein de Decentraland, il y a une mécanique de drop qui est assez ouverte pour un développeur et qui fait qu'on peut venir facilement, enfin, pas trop difficilement, se faire hacker le drop. Donc il y a une difficulté dans la distribution de ton produit. Comment je fais pour maîtriser demain cette distribution, pour pas me faire hacker le wallet émetteur et pour pas me faire hacker en tant que récepteur du produit en question que j'ai voulu distribuer. Donc ça, tu as des enjeux de cybersécurité au sein d'une expérience métaverse qui sont évidents, et ça, c'est des vrais enjeux auxquels il faut répondre. Toutes les plateformes n'y répondent pas, parce que c'est des plateformes publiques, parce que c'est des plateformes sociales, c'est pas leur priorité, parce qu'elles s'adressent à un public end user. Pour celles, notamment comme nous, comme Reality, qui nous adressons à des entreprises avec justement ce type de problématique, c'est un enjeu pour nous. C'est un enjeu de s'assurer de la sécurité de l'expérience. C'est un enjeu, quand on va déployer un environnement dédié, fermé, à un type de population, de s'assurer qu'il n'y a personne qui peut enfreindre justement le passage, etc., etc. Donc nous, voilà, il y a une surcouche de développement cyber qui fait partie évidemment de nos développements d'interface comparativement à ce que fait une plateforme qui est ouverte. Et d'ailleurs, j'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais en fait, à la suite de nos expériences sur Decentraland, Sandbox, autres, etc., donc on a décidé de continuer à proposer au marché de créer une expérience sur ces métaverses ouvertes, mais on a décidé aussi de développer notre environnement propriétaire. Pour la simple et bonne raison que justement, à la confrontation de ces plateformes, il y avait des limites parfois dans la nature des fonctionnalités corpo que pourrait attendre une entreprise, dans la qualité des designs, dans la nature des interactions sociales, dans la nature des fonctionnalités qui sont moins orientées événementielles. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on a décidé de créer notre environnement propriétaire et qui va s'ajouter aux différentes métaverses que tu pourras choisir sur la création d'une expérience. Donc, tu pourras choisir Decentraland, Sandbox, Spécial, Reality, qui, elle, aura plus vocation à toucher des événements de type corpo, professionnel, etc. Donc, le cyber, c'est un enjeu. Il y a d'autres éléments qui sont intéressants, par contre, c'est l'anonymat, tu vois. Donc là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas un enjeu, c'est un moyen de pouvoir créer justement des expériences avec des personas anonymes où justement je vais préserver la nature des informations de mon utilisateur, la nature de ses données, puisqu'en fait je ne vais collecter que potentiellement soit rien du tout, s'il se connecte par exemple en guest, qui arrive beaucoup, à la rigueur peut-être son IP, soit son wallet. Et donc son wallet, il est anonyme, alors j'ai peut-être accès aux informations de son wallet, mais au même titre que n'importe quelle personne, puisque son wallet, il est public de toute manière, grâce à la blockchain et aux informations associées. Et donc, je n'ai pas d'informations sur le personnage en question. Donc ça, c'est un élément, au contraire, peut-être intéressant pour des marques de venir justement favoriser la création d'expériences sur ces environnements, parce que justement, j'ai une audience qui, elle, est anonyme.
Ok, merci pour ça. Donc on entend des sujets un peu à surveiller comme la cybersécu, d'autres plutôt encourageants. Peut-être une dernière question, je vois qu'on arrive au bout de notre échange. On a la chance de travailler ensemble déjà sur des sujets pour certains de nos futurs clients communs. qui sont des enjeux extrêmement concrets qu'on retrouve dans les entreprises, qui sont une manière de rapprocher des gens distants. Alors tu l'as dit sur la partie purement événementielle salon. Est-ce que tu as des exemples ou un exemple que tu as vu, que vous n'avez peut-être pas traité vous, hein, mais que tu as vu comme une expérience intéressante dans le monde, d'une manière de rapprocher des gens dans un cadre corporate qui est le tien et qui est le nôtre, avec un certain succès. Alors on a vu des expériences de recrutement, on a vu des choses comme ça qui sont plus ou moins novatrices. Est-ce que toi tu as vu des choses réellement novatrices dont on pourrait s'inspirer?
On a fait en...
Même si c'est pas vous, c'est pas grave. Hein.
Non, des choses novatrices, on a vu des fashion shows, par exemple, virtuels, ouais, qui ont réuni beaucoup de marques. Alors, on n'a pas participé, mais on a fait, en l'occurrence, un genre de fashion show à notre manière. On a créé un événement avec une des top 10 collections NFT au monde qui s'appelle World of Woman, et un studio de design wearable, donc d'habits virtuels, qui, lui, s'est positionné uniquement sur des collections d'habits virtuels qui s'appellent The Fabricant. Et donc on a créé un événement avec The Fabricant, World of Woman et Reality au mois de septembre, pendant lequel on a distribué une collection exclusive de robes virtuelles qui avaient été créées et designées pour l'occasion, avec chacune des robes. Donc il y avait 27 robes virtuelles qui avaient été créées par des designers individuels. Donc The Fabricant avait travaillé en collaboration avec des grands designers sur chacun des modèles, et chacun de ces modèles était mis sur un totem 3D au sein de l'expérience. Donc tu pouvais, en tant que participant, utilisateur, voir le modèle avec des détails très avancés. Le modèle tournait sur lui-même. Tu pouvais liker, tu pouvais apprécier, etc. Et tu pouvais acheter le modèle. Donc tu pouvais acheter le modèle, tu pouvais le porter directement sur toi en tant qu'avatar dans l'expérience. Et ensuite, tu pouvais le connecter sur ton wallet, comme je te disais tout à l'heure, et le récupérer et le réutiliser potentiellement.
Et là, on est plutôt, excuse-moi, mais sur des expériences un peu individuelles. Je pense à des expériences qui permettent de réunir des gens qui sont à distance dans plusieurs pays ou sur plusieurs entités, etc., dans des entreprises. Je pense à des sujets sur les hôpitaux aussi qu'on a pu travailler, etc. Des gens de réunir dans lequel un métaverse privé, propriétaire, deviennent un espace qui amène quelque chose qu'on ne peut pas faire dans un autre monde. Enfin, tu l'expliquais un petit peu tout à l'heure avec Zoom, ça fait évidemment d'autres choses qu'une réunion Zoom, mais quelque chose qui donne envie à des gens de se réunir, une bonne raison de se réunir dans un métavers. Il y a eu des concerts sur Fortnite, etc., mais
il y a les concerts. Si tu veux, pour nous, il y a quatre grosses thématiques qu'on adresse, et c'est un peu la distribution qu'on va avoir et le marché qu'on va viser. Tu as tous les événements physiques qu'on va amplifier, comme je te le disais tout à l'heure, et c'est un moyen de se réunir à distance et de trouver du contenu que j'aurais pas pu retrouver physiquement parce que je me serais pas déplacé. Il y a tout ce qui est animation de communauté, auquel on croit beaucoup. Donc notamment, comment est-ce que je fais pour réunir des populations, notamment qui viennent de Discord et Twitter et qui en ont marre de passer du temps sur de la 2D à échanger sur un chat, mais qui ont envie de se retrouver un petit peu, peut-être pas physiquement, mais à l'intermédiaire, et donc de commencer à discuter, se retrouver dans une expérience immersive différente. Il y a l'expérience d'achat, mais pour toi, c'est pas de la réunion. Il y a l'expérience professionnelle, formation, beaucoup.
Formation. C'est un sujet qu'on retrouve beaucoup chez nos clients, je suis content de t'entendre dire, on voit ça aussi. Ouais.
Formation, c'est un élément qui revient sur la table en permanence. Journée de recrutement à distance, pour des populations, notamment de freelance en remote, etc. Ça devient de plus en plus aussi important et incontournable. Aujourd'hui, quand tu recrutes beaucoup, tu le sais, tu recrutes beaucoup de joueurs à l'étranger. Comment est-ce que je fais pour faire des journées de recrutement avec ma brand, avoir un peu une brand awareness associée, etc. Donc là, le fait de faire un événement virtuel où je vais réunir des populations, les recruter, faire des one-to-one et en même temps montrer un peu l'effervescence autour de l'entreprise, etc. C'est un très bon moyen de le faire. Animer aussi mes employés qui sont à distance. Donc tout ce qui est after works, etc., ça a un peu sauté avec le Covid et avec ces populations qui sont en télétravail. Comment est-ce que je fais pour animer des populations à distance, parfois en télétravail ou parfois même juste dans des géographies diverses, pour pouvoir les réunir au sein d'une expérience qualitative, entertainante, etc., qui n'est pas juste une réunion de travail, mais qui est un moyen juste de gathering autour entre salariés d'une même entité. Et ça, on y croit beaucoup. Et on le voit d'ailleurs, on en a fait.
Ok, donc il y a effectivement des cas très concrets. Je rejoins totalement sur la partie formation, recrutement, qui semblent les plus évidents, et après se retrouver sur des événements corporate.
Il y a un autre sujet intéressant et sur lequel on discute beaucoup avec pas mal d'acteurs, c'est tout ce qui est charity event à distance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se déplacent moins. Les charity physique event, il y a des gens qui s'en lassent. Le fait de pouvoir participer à une cause en étant à distance, réunis autour d'un événement virtuel et pouvoir contribuer en crypto pour certains à qui c'est favorable, etc. On est en train de le voir de plus en plus. Donc, un événement virtuel sur lequel je vais faire des collectes de dons pour une cause noble.
Ok, très clair. Eh ben, si ça te va, on va rester sur cette note noble. c'est pas tous les jours. Je vais passer le micro à Elif, qui a eu la gentillesse de préparer cet événement pour One Point. Merci Elif, comme ça je te remercie en même temps. Qui a des questions, je crois qu'il y avait des questions à distance.
Et vous m'entendez ?
On va en prendre quelques-unes.
Ouais. Je tiens aussi à remercier Valentine qui m'a aidée.
Et merci Valentine.
Si on peut faire un gros focus sur Valentine comme ça, elle est pas bien. Non, du coup, on a des personnes à distance sur YouTube qui nous ont posé des questions. La première question qu'on a, est-ce que selon toi, un métavers passe forcément par un casque de réalité virtuelle ?
Alors, bonne question. En l'occurrence, aujourd'hui, la plupart des plateformes dont j'ai parlé ne sont pas sur une expérience casque. Donc, c'est uniquement sur des expériences desktop, certaines sur mobile, peu. Mais la plupart, Decentraland, Sandbox notamment, ne sont pas sur casque virtuel. Alors, certaines proposent de le faire l'année prochaine. Donc, notamment Decentraland, elle travaille sur un casque. Spatial a une expérience casque, mais l'expérience sur web est beaucoup... est bien meilleure que ce qu'on retrouve sur l'expérience casque encore.
Ok. Bah, top. Et une deuxième question qu'on avait, c'est est-ce que tu penses qu'on pourrait se passer aujourd'hui d'événements en physique et concentrer un événement totalement dans un métavers ?
Alors, oui, je pense qu'on peut faire un événement totalement métavers qui serait de qualité. Et non, je ne pense pas qu'on puisse se passer forcément du physique, de la relation avec le contact humain qu'on peut avoir sur un événement physique. Pour moi, c'est autre chose. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on peut avoir sur un événement physique, à la rencontre d'une personne avec laquelle on va prendre le temps de dialoguer, etc. C'est différent. Donc l'idée, c'est pas encore une fois, et c'est ce que je disais tout à l'heure avec Patrick, c'est pas rentrer dans un phénomène, et ça, moi, c'est ma croyance, en tout cas profonde, personnelle, je me suis pas lancé sur cette industrie avec pour but de remplacer notre quotidien dans le monde physique. C'est plutôt d'amplifier, ou comme je le disais, de remplacer un petit peu la manière dont on consomme Internet. Et donc, je pense qu'on peut avoir des expériences de grande qualité uniquement sur virtuel, qui seraient suffisantes. Néanmoins, pour certains types d'événements, c'est quand même encore exceptionnel de pouvoir se voir physiquement.
Bah écoutez, c'est toutes les questions du chat. Et peut-être pour rebondir, du coup, vous en pensez quoi de la cohabitation des événements dans le virtuel et en réel ? Donc, tu es en réel, mais il y a aussi un méta qui te permet de naviguer à l'intérieur de cet événement. C'est ce genre de choses que vous concevez ? C'est une demande aujourd'hui ?
Oui, c'est une demande. Alors, ça dépend des types d'événements et ça dépend de l'objectif. Est-ce que l'idée, c'est de répliquer à 100% les contenus qui sont proposés dans le physique, dans le virtuel ? Et là, c'est plus difficile parce que la seule manière, ça va être potentiellement de broadcaster l'événement physique avec un live qui va être diffusé sur un écran au sein de l'expérience métaverse. Ce qu'on voit de plus en plus, quand c'est limité à un speaker ou à un chanteur, par exemple, c'est tout ce qui est motion capture. Donc je vais avoir un participant qui s'adresse, qui chante, qui est en talk sur scène, à un ou deux participants, et dont je vais capturer les mouvements, la voix, etc., et que je vais retranscrire à travers un avatar sur une expérience métaverse, amplifiée, immersive, etc., où là je peux avoir quelque chose de qualité. À la rigueur, dans ce cadre-là, oui. Mais ça ne s'adresse pas à tous les types d'événements, et ça ne sera pas forcément qualitatif pour tout type d'événement.
Ok, parfait. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une question ?
Je vais me mettre là pour éviter que tu te casses le cou. Quand on écoute les détracteurs du métavers, on entend beaucoup l'empreinte écologique, les devices qu'il faut, la puissance de calcul, etc. Mais est-ce que tu penses pas qu'une expérience extrêmement aboutie dans le métavers pourrait au contraire en fait permettre une réelle réduction écologique ? Je pense par exemple aux entreprises, le fait d'organiser un événement, de faire venir tout le monde, etc. Mais aussi du côté utilisateur, le fait de pouvoir s'accomplir dans une expérience totalement virtuelle éviterait, je pense par exemple à la fast fashion, éviterait en fait d'avoir une consommation dans le physique où justement voilà, il y a cet aspect très abouti en fait dans l'expérience qui permettrait de pallier à cette conso énergétique technologique.
Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend un peu de tout hein, sur les détracteurs, comme tu dis, de métaverse et de la consommation énergétique de ces univers. La réalité, c'est que notamment pour des événements, réunir des gens du monde entier à Paris pour un événement, quand tu réunis 10 000 personnes qui prennent l'avion, qui prennent un hôtel, qui prennent des taxis, etc., etc., ça consomme des centaines, des milliers de fois plus qu'un événement qui est fait sur virtuel et qui va consommer un peu plus que ce que tu peux avoir sur un environnement 2D. Et la réalité, c'est que c'est des mondes complètement différents. Donc si tu veux, évidemment, déjà qu'il faut mesurer un petit peu les propos, parce que selon un type d'événement ou un autre, eh ben, ça ne va rien avoir en termes de comparaison entre un événement physique et un événement virtuel. Après, Ça dépend du type de l'événement, ça dépend du type d'expérience. Mais évidemment, pour moi, il faut contrebalancer ça par le gain d'énergie potentiellement consommé à la fois par l'entreprise organisatrice de l'événement et à la fois par l'utilisateur qui participe à travers sa consommation pour pouvoir participer à l'événement, quelle qu'elle soit.
Merci.
C'est un petit peu d'ailleurs le débat qu'il y avait aussi sur l'e-commerce avec Amazon, grand pollueur, et d'autres qui défendaient l'e-commerce comme étant au contraire une moins de dépenses énergétiques, puisque pour un camion Amazon qui se déplace, ça évite d'avoir 150 voitures différentes qui vont faire leurs courses chez Carrefour. Je pense qu'il y a une question derrière moi, peut-être, Madame Marzocchi.
Petite question, en fait, c'est l'approche un peu retour sur investissement. Aujourd'hui, les clients, est-ce que c'est plus de la nouvelle expérience et de l'investissement, ou on commence déjà à avoir des clients ou des gens qui ont vraiment déjà un retour sur investissement? On est plutôt actuellement à quelle phase
Et question peut-être corollaire à ça, comment on mesure justement? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà posé des KPI, quelque chose qui permette de mesurer le succès ou l'insuccès d'une opération?
Alors déjà, c'est une très bonne question. Il faut voir l'objectif de l'événement. Il y a plusieurs attentes de la part d'un créateur. Les attentes qu'on voit pour l'instant, beaucoup, ce qui est vrai, c'est beaucoup d'attentes PR marketing. Donc comment est-ce que je fais un événement en métaverse qui va finalement presque être utilisé pour une campagne marketing à travers la communication autour de l'événement, en amont de l'événement, pendant l'événement, après l'événement. Donc réutiliser les médias autour de la création de cet événement. Donc ça s'est beaucoup vu, ça fonctionne. Ça, c'est très qualitatif parce qu'aujourd'hui, les médias, la presse s'emparent très facilement et très fortement de n'importe quel acteur traditionnel qui va créer une expérience métaverse. Donc ça, pour le coup, ça marche, c'est profitable par rapport au budget que ça peut coûter et à l'effet escompté. Donc ça, c'est une expérience réussie. Le deuxième, c'est la partie utilitaire fonctionnelle. Comment je fais, ce que je te disais tout à l'heure, comment je fais pour remplacer mon Zoom, mon Opin, mon etc. par l'utilisation d'un outil comme Reality ou potentiellement de types d'expériences diverses qui vont me permettre, pour quelques milliers d'euros, de venir créer une expérience sur Metaverse et qui va se substituer à l'équivalent de ce que j'aurais pu avoir avec un autre type d'outil 2D.
Facile à mesurer financièrement en se disant j'ai remplacé un outil par un autre.
J'ai remplacé par un outil par un autre, les gens ont passé plus de temps, l'expérience retrouvée par l'utilisateur était plus qualitative, je le refais, c'est plus immersif, c'est plus enrichi, mon message passe mieux, etc. Donc ça, c'est une mesure mais qui est difficile, qui n'est pas quantitative, je dirais, c'est plus du qualitatif, expérientiel, etc. Et après, il y a le ROI purement financier, on n'y est pas encore, c'est une réalité. Si ce n'est pour certains acteurs, notamment dans le monde du NFT, qui eux se sont emparés des sujets du Web3 ou qui sont natifs Web3, donc dont le business est purement de créer des collections d'NFT ou des collections de wearables. Et tu vois des acteurs comme Nike aujourd'hui qui ont fait 7 millions de users sur leur metaverse, qui ont vendu plus de 180 millions de dollars de ventes de sneakers virtuels et pour qui c'est un grand succès. Donc ça dépend comment tu t'en empares. Peu ont réussi encore le pari de rentabiliser leur expérience, mais ceux qui savent le faire et qui s'y sont bien pris sont très successful, mais ils ne sont pas encore très nombreux.
Merci. Un avenir radieux quand même. Merci beaucoup Raphaël d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de t'être assis dans ce fauteuil pendant une heure pour répondre à nos questions. La prochaine d'avoir fois...
Reçu. Comment ? Merci de m'avoir reçu.
On était content de t'avoir. C'était très enrichissant et très très concret. On aime quand les choses sont très concrètes. Pour ma part, et ben, la prochaine fois dans mon fauteuil, ce sera Elif ou Valentine qui viendront animer la prochaine session avec l'invité qui te succédera. Et on va retrouver donc notre échange aujourd'hui à la fois sur YouTube. Sur la chaîne OnePoint, également sur les plateformes de podcast, puisqu'on passe aussi sur les podcasts. Merci beaucoup Raphaël pour ton temps et à très vite. Merci à tous d'avoir suivi.
Merci Patrick
et à très vite. Merci à vous.
Je ne fais que défendre mes droits de consommateur.
Pourquoi les goûter, c'est du volement. Vous avez des naturels produits.
Un bon vendeur a toujours un sourire sincère.
Le client est roi et le client, c'est vous.